Les 30 premiers jours, vous effondrez en toute sécurité. Dans le précédent guide de survie post-rupture, donc le premier livret sur 3, vous avez appris qui contacter en cas d'urgence et comment demander de l'aide sans épuiser ou inquiéter inutilement votre entourage. Vous avez compris les comportements à adopter pour rester digne en toutes circonstances, même si la fureur vous ronge les foies et que vous lui feriez bien la peau. De plus, vous avez bénéficié de 18 conseils avisés d'une amie qui vous veut du bien. À l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore en état de faire toutes ces activités agréables qui remontent le moral et qui vous permettraient de retrouver le niveau d'estime de soi antérieur à la rupture. En fait, vous pencheriez plutôt pour l'autodestruction, et c'est normal. Ce guide de survie post-rupture, donc le deuxième livret sur 3, vous explique comment faire passer le temps en toute sécurité quand le manque de l'autre vous étreint, quand la souffrance est lancinante, parfois intolérable, quand la solitude vous pèse et que vous seriez prêt et prête à faire n'importe quoi pour qu'elle cesse, cette solitude et cette douleur. À propos de drogue et d'alcool, vous pourriez être tenté de vous saouler ou de vous droguer pour oublier. C'est à vous de voir, vous connaissez vos limites mieux que quiconque. Mais vous devez vous rendre compte que vos facultés de jugement ne sont pas au top actuellement et que vouloir oublier de la sorte n'arrangera pas la situation à terme. Je vous donne une tranche de vie de Raphaël qui témoigne. Deux points, ouvrez les guillemets. Je ne bois pas. Jamais. Je n'aime ni le vin ni l'alcool en général. À peine une coupe de champagne aux fêtes anniversaires ou au jour de l'an. Or, durant ma période post-divorce, j'ai eu une envie folle et inexplicable de boire du champagne. Et je ne voulais pas boire pour noyer le chagrin. En fait, je voulais l'affronter. Non, c'était juste une envie de champagne. D'alcool peut-être, de fraîcheur et de bulles pétillantes sûrement. J'ai cédé très peu souvent, en m'admonestant avec vigueur. En fait, je craignais par-dessus tout de devenir une pocharde. J'ai finalement cédé à un verre quelques soirs, rares les soirs. Lorsque j'ai découvert, lors d'une lecture fortuite, que le champagne soignait la déprime. Fermez les guillemets. La déprime, ou dépression légère, est un affaiblissement moral et physique avec ralentissement des fonctions organiques et intellectuelles. Cette pathologie se traduit par une tristesse, des réactions émotives anormales, une fatigue physique inexpliquée, un sentiment de malaise général, un changement de comportement et d'attitude vis-à-vis de l'entourage, une hésitation permanente devant les décisions courantes. Si vous vous sentez dans un tel état physique et psychique, vous avez peut-être envie d'un petit verre. L'un des remèdes, lu dans le livre « Mes remèdes de grand-mère » par le docteur Henri Puget et Régine Tessol, consiste à, ouvre les guillemets, « boire une coupe de champagne matin et soir avant les repas pour atténuer la dépression ». Fermez les guillemets. Je précise, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour comprendre l'action du champagne sur cet état de déprime, prenons connaissance du rôle de nos cellules nerveuses. Ces dernières libèrent des substances chimiques appelées neurotransmetteurs. L'une d'elles, la dopamine, est libérée dans les ramifications nerveuses selon un rythme, une quantité et une intensité adéquates. Un dérèglement de ces paramètres peut entraîner des désordres, cause de la déprime. Le champagne stimule la décharge de dopamine et la régule, ce qui explique la sensation de bien-être inespérée qu'il procure, atténuant ou éliminant les idées noires. Et je rajoute encore, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Conseil d'amis numéro 1. Une déprime légère ne dure en général que quelques jours. Si les signes persistent, demandez l'aide d'un médecin, car ils pourraient marquer le début d'une pathologie plus grave, comme une dépression dite psychogène, apparaissant après un événement traumatique, tel qu'une rupture amoureuse. Un accès mélancolique endogène, sans cause extérieure, des troubles de l'humeur symptomatiques d'une affection psychiatrique, telle que la schizophrénie ou l'alcoolisme, ou d'une affection cérébrale organique telle que tumeur, épilepsie, dépression masquée. Quelle que soit votre décision, boire ou ne pas boire, sachez qu'une intense souffrance est tout à fait normale et que vouloir l'annihiler dans l'alcool ne fera que retarder votre guérison. Nous verrons cela dans un prochain guide réservé à la construction de votre nouvelle vie. Pour l'instant, traitons l'urgence des 30 premiers jours. Pour surmonter une douleur, il faut la ressentir. Il faut vous laisser traverser par la douleur, même si c'est plutôt désagréable et que l'on préfère l'éviter coûte que coûte. Pourtant, vous n'avez qu'à rester passivement assis, assise, au fond de votre canapé à sangloter pour que le processus de guérison se fasse. En effet, en arrière-plan, le cerveau continue de travailler, digérant et assimilant votre rupture. Or, si vous assommez votre cerveau avec diverses substances pendant un mois non-stop, il ne pourra pas accomplir sa mission et au réveil, vous ne vous sentirez pas mieux. Vous ne ferez que retarder le processus de guérison ou vous coincer dans une étape de ce processus, étape que je vous dévoilerai ultérieurement. Donc, vous ne faites que retarder, que vous coincez dans une étape de ce processus qui ralentira votre progression et nuira à l'atteinte de vos objectifs. À ce stade, vous savez comment survivre les premiers jours grâce à ce premier outil indispensable à développer pour vous reconstruire au plus vite, qui est, premièrement, d'accepter la douleur.